Radio Libertaire 89.4, la voix sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et je vais commencer l'évocation des partageux de la commune, et toujours avec comme fil conducteur Louise Michel. Louise Michel qui n'en a plus pour très longtemps à être libre, hein, puisque nous sommes en 1883. Et bien oui, ça va être cette manif des sans-travail, des sans-pain, où première réaction, c'est cette marche sur l'Élysée, hein, donc qui va justifier donc des arrestations. Et puis en fait, au fil des jours, il s'avérera que le plus grave, ça a été la distribution de cette brochure à l'armée. Donc à l'armée, hein, à l'armée, donc aux militaires, aux soldats, de se révolter, hein, de brûler les casernes, éventuellement même de tourner leurs fusils contre leur chef, hein. Donc cette grande idée encore de fraternisation. Et là, bien, nous en étions au procès des 66 à Lyon. Donc, c'est l'affaire de Monceau-les-Mines, hein, qui était parti donc avec ce 14 juillet qui n'a pas été accepté par les patrons de Monceau-les-Mines, qui ont refusé que leurs ouvriers donc chôment ce jour-là, et leur ont donc donné comme jour de remplacement le 15 août. Alors, le 15 août, évidemment, c'est une fête éminemment religieuse, puis c'est aussi la Saint-Napoléon. Voilà. Alors donc ça avait déclenché toute une vague de manifestations dans la région, hein, autour de Lyon, avec plus particulièrement une fixation donc sur la religion catholique, hein, les statues, les calvaires, les croisettes. Enfin bon, voilà. Alors oui, énormément d'arrestations, soit plus d'une centaine, hein, et 66 donc vont se retrouver donc à ce procès, donc le procès dit des 66. À Lyon. Émile Gautier, donc on a vu la défense et donc la lecture qui avait été faite de ce texte, donc qui a été repris y compris dans les journaux conservateurs et plus particulièrement dans le journal Le Gaulois, hein, Le Gaulois qui a été racheté donc par le journal Le Figaro, hein, donc les chats font pas des chiens. Voilà. Cette proclamation donc qui a été faite par le porte-parole de ces 66, et Émile Gautier aussi, bon, lui aussi assure sa défense, et voilà ce qu'il dit sur les groupes anarchistes. Ce sont de simples rendez-vous où des amis se réunissent chaque semaine pour parler entre eux des choses qui les intéressent. La plupart du temps, même, on n'y voit guère que de nouvelles figures, à l'exception d'un petit noyau de 4 ou 5 fidèles. Et alors, Élisée Reclus, qui n'est pas inculpé, hein, va écrire au juge d'instruction pour dire qu'il a été en France à cette période. Alors, il s'étonne qu'il n'ait pas été donc dans le groupe donc des inculpés. Le procès débute le 8 janvier 1883. Le 19 janvier, les condamnations tombent. Pour les 66 inculpés, donc il y a ça va jusqu'à 5 ans de prison, hein, pour les meneurs. Kropotkine, par exemple, Gautier, Joseph Bernard, Pierre Martin, Toussaint Borda, eux prennent 5 ans de prison. Le minimum, ça sera 6 mois, hein, et alors le mardi 9 janvier, le première page du Gaulois, c'est sur les obsèques donc du général Chanzy. Le lendemain, mardi 10 janvier, on apprend que Louise Michel est en Angleterre, hein, Stenway Hall, à Londres. Elle fait une conférence sur l'éducation et les droits des femmes. Le Gaulois fait aussi un petit passage sur le duel qui continue, hein, c'est sa phrase, hein, le duel continue entre Paris et Nice, à qui gardera le cadavre du feu dictateur. Eh oui, le feu dictateur, c'est Gambetta, ça y est, il est mort, Gambetta, hein, et on voit que le Gaulois met même le dictateur. Et à Paris, eh bien, c'est la campagne électorale, plus particulièrement à Belleville, pour élire donc un remplaçant à Gambetta, à la Chambre des députés, bien sûr, hein. Et c'est là où cette manif, donc ces deux grandes manifs, hein, plus particulièrement celle de la place des Invalides, là, est 3 jours donc avant le jour des élections du premier tour. Donc évidemment, c'est très sensible, tout au moins pour ceux qui croient qu'on peut changer quelque chose en mettant un bulletin de vote dans une urne. Donc, le 17 janvier, dans la Gazette des Tribunaux, il y a une déclaration de Pierre Kropotkine, qui est reprise donc de ce qu'il a dit au procès de Lyon. L'échéance sociale est fatale. Elle arrivera dans moins de 10 ans. Croyez-le bien. On arrive donc au mois de mars, hein, mars 1883. L'extrême gauche fonde la Ligue républicaine pour la révision des lois constitutionnelles. Alors évidemment, c'est pas du tout les anarchistes, hein, mais Gambetta voulait modifier donc quelques lois. Et donc on retrouve dedans Pelletan, Lézan, la guerre. Voilà. Alors Lézan, c'est de savoir si c'est Charles, si c'est Charles-Ange Lézan, si parce que la famille Lézan, ça va, disons, des anarchistes à la gauche, hein, chez les Lézan. Voilà. Il y a la guerre aussi. Donc il demande la décentralisation administrative, l'élection des juges, la séparation Église-État, ratification de la Constitution par référendum, mandat impératif, impôt progressif sur le revenu. Autant de choses qui paraissent absolument révolutionnaires en 1883. Et alors, on arrive à ce 9 mars, hein, vendredi, la crise économique suite à cette faillite, hein, de cette banque réputée catholique, hein, la banque de l'Union Générale, en janvier 1882, et qui va durer, crise qui va durer jusqu'en 1887, puisque cette banque avait investi notamment dans les chemins de fer. Hein. Alors les chemins de fer, bah, ça demande donc du charbon, bien sûr, hein, donc investir dans les mines, hein, et puis aussi dans les aciéries pour les rails, hein, et puis les constructions de locomotives ou de wagons. Donc évidemment, cette banque fait faillite. Il y a tout un des secteurs entiers de pans d'activité qui s'écroulent. Et donc, cette crise va durer, cette crise économique suite à la faillite de cette banque va durer à peu près 5 ans. Alors évidemment, banque de sensibilité catholique, il est évident que ça fait les choux gras d'autres banques qui n'ont pas tout à fait la même couleur de croyance intime, hein, et plus particulièrement les Rothschild, hein, bien sûr, hein, voilà. Et ça va se retrouver donc ça apparaîtra, ça confirmera du reste pratiquement dans tous les champs de cette fin du 19e siècle. Il y a plusieurs couplets, et bien souvent, il y en a un donc sur Judas, sur le juif perfide, qui autant de thèmes qui sont repris donc des catholiques. Alors dans la même chanson, on voit qu'il y a un couplet qui est repris donc sur l'idéologie catholique, et dans la même chanson, il y a un couplet qui est contre les catholiques, hein, voilà. Et alors cette manif, et là, bah, ça va être le thème donc d'aujourd'hui, hein. C'est une manif, c'est à l'appel du syndicat des menuisiers. Il y a un meeting de centre-travail qui est organisé donc place des Invalides. Le préfet de police interdit la manifestation. Un cortège de 600 personnes se forme qui remonte le boulevard Saint-Germain. Dedans, il y a Mareuil, Émile Pouget, Louise Michel qui sont en tête. Pouget affirmera plus tard que Louise Michel n'avait pas de drapeau noir au départ. Et puis, bon, on va voir, le journal Le Gaulois, plusieurs numéros expliquent tout à fait comment ça s'est passé, en fait. Hein. C'est l'interdiction de la place des Invalides qui a fait que les manifestants se sont répandus un petit peu partout dans Paris, et puis surtout sur le boulevard Saint-Germain. Et alors, au passage, évidemment, il va y avoir des vitrines de boulangerie qui vont être cassées, des vitrines aussi d'objets religieux, hein. Ça c'est pas dit dans les bouquins d'histoire, hein, précis, mais c'est bien expliqué là dans le journal Le Gaulois, voilà. La police interviendra à place Maubert. Pouget et Mareuil sont arrêtés. Louise Michel va parvenir à s'éclipser. Il y aura une perquisition chez Pouget avec une saisie de 600 brochures antimilitaristes à l'armée. Eh oui. Alors, ont-elles été distribuées? On sait pas trop. Toujours est-il que là, la police, si elles avaient été distribuées, il en resterait pas 600 chez lui, hein. Mais toujours est-il que la grosse accusation, ça va être d'avoir distribué ces brochures, donc pendant cette manif de sans travail. Voilà. On va prendre Le Gaulois, hein. Donc Le Gaulois, c'est le journal de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie, hein. Et c'est celui donc du vendredi 19 janvier 1883. Alors on retourne à Lyon à ce procès des 66, et alors Louise Michel, donc, qui était à Londres, revient, et voilà ce qu'écrit le journaliste du Gaulois. « Je viens de voir Louise Michel, avec laquelle je me suis longtemps entretenu. La conférencière socialiste arrive de Londres et dit avoir rencontré dans le peuple anglais beaucoup et de vives sympathies pour les anarchistes lyonnais. Elle espère, dit-elle, que tous seront acquittés. Ce soir, elle donne une réunion à la Guillotière, dans laquelle elle doit protester au nom de tout le parti anarchiste contre les lettres de menace adressées au tribunal. » Et alors, il est précisé que demain, elle donnera aussi une réunion à la Croix-Rousse. Cette réunion tenue après le jugement rendu pourra présenter quelque intérêt. Et voilà comment on termine le journaliste. Je vous en informerai. Alors, le Gaulois, donc, du samedi 20, le procès des anarchistes. Lyon, 19 janvier, par dépêche télégraphique, jugement. Le tribunal, reconnaissant l'existence d'une fédération anarchiste, dite Fédération révolutionnaire lyonnaise, présentant les caractères d'affiliation à une association internationale ayant pour but de provoquer la suspension du travail et l'abolition de la patrie, de la propriété, de la famille et de la religion, mais ne relevant pas de charges suffisantes contre Godenzi, Maton, Ribert, Thomas et Girondon, prononce leur acquittement. Par contre, condamne les autres. Alors, les premiers, Chabrier, Sainte, Cotax, Damiens, Diglin, Berlioz, Hugonard, Souriçant, Vaillet, Champagne, eux, ils prennent 6 mois de prison, 50 francs d'amende, 5 ans d'interdiction. Et puis on arrive donc aux peines les plus lourdes. Gauthier, Bernard, Bordatet, le prince Kopotkin, à 5 ans de prison, 2000 francs d'amende, 10 ans de surveillance, 5 ans d'interdiction. Le tribunal statuant contre les défaillants condamne Fabre et Dejoux à 2 ans de prison. Et deuxièmement, Sivocte, Boréas, Ebertol, Valadier, Baguet, Brontou, Bourdon, Chazy, Dard, Joly, Hainaut et Morin à 5 ans de prison, 2000 francs d'amende, 10 ans de surveillance et 5 ans d'interdiction. Alors Sivocte, il a réussi à passer en Belgique, hein, parce qu'on l'accuse donc de l'attentat à la bombe contre... Donc l'Assommoir, hein, cette espèce de cabaret en dessous du théâtre de la Guillotière, qui a fait une victime, hein, un serveur, hein, donc de ce bouge, hein, de ce bouge à bourgeois. Et donc, mais il va avoir un problème puisque il continue donc ses expériences de bombe, hein, et il va être blessé en Belgique. Alors là, évidemment, il va être jugé en Belgique, et il va être extradé et donc il va être condamné aussi en France, hein, Sivocte. Et alors le journal Le Gaulois continue comme ça. Les femmes des prévenus veulent se précipiter vers leur mari. Bah oui, il y en a quand même compris 5 ans. Hein. Les soldats les repoussent. On distingue au milieu du bruit la voix de la princesse Kropotkin. De leur côté, les prévenus se haussent sur leur banc et il règne pendant un instant un certain tumulte. La princesse Kropotkin descend les marches du palais au bras de Louise Michel. Il est probable que tous les condamnés interjetteront appel. Voilà, donc c'est, mais il y en a pratiquement une page, hein, dans Le Gaulois sur ce jugement donc de Lyon. Le surlendemain, le lundi 22 janvier 1883, Le Gaulois donc revient sur Paris, réunion publique, Paris, à la salle Graffard. 1200 personnes environ se trouvent dans la salle. Monsieur Brousse préside, avec pour assesseur Messieurs Desmond, député du Gard, Matré et Michelin. Tony Révillon entre le premier en scène. Il parle du roi. Il parle de la monarchie. Il en parle mal, naturellement. Mais il a un si beau timbre de voix qu'on l'écoute avec plaisir, tout comme on écouterait jouer du cor de chasse un soir de mélancolie. Le citoyen Laguerre est moins agréable à entendre. Et il n'intéresse que médiocrement ses auditeurs avec l'historique du procès de Monceau-les-Mines. Valis, qui parle de Gambetta, ennuie tout le monde. Et Gambetta est mort, hein. Enfin, la séance est levée et les assistants, afin de n'être pas venus pour rien, votent l'expulsion des prétendants au trône, hein, évidemment. Au Tivoli Vauxhall, tous les groupes, alors ça c'est rue de la Douane, hein, c'est pas loin de l'actuelle place de la République, ça, puisque la rue de la Douane débouche sur la place de la République. Tous les groupes révolutionnaires de Paris et de banlieue avaient été conviés à assister à la réunion qui avait lieu hier à 2h dans la salle Tivoli Vauxhall. C'est le citoyen Vaillant, président du meeting, qui a pris le premier la parole. Tout d'abord, on peut supposer qu'il est royaliste acharné, car il déclare que jamais, sous aucun monarque, on a rendu contre les travailleurs un jugement aussi sévère que celui de Lyon. Mais Cette illusion s'évanouit bientôt, car Vaillant termine en faisant un appel aux révolutionnaires. Donc on se rend compte que le journal Le Gaulois est un journal absolument anti-républicain. Goulet, qui lui succède, déclare que le danger presse, que l'accord des légitimistes et des orléanistes est imminent, ainsi que l'entente des grands financiers et des princes de l'industrie, dont le but est l'exploitation des travailleurs. Le citoyen Giraud, lui, n'y va pas par quatre chemins, et il demande avec désinvolture que tous les prétendants soient mis à mort. C'est aussi l'avis du citoyen Chauvieux. Enfin, voici Louise Michel, revenue de Lyon ce matin même, et dont le cœur déborde d'indignation. La grande citoyenne ne voit pas les choses exactement comme les camarades. Elle pense que le jugement rendu contre les anarchistes est un triomphe pour la révolution, et que leur reproche ou tant d'iniquité recevra son juste châtiment. Plusieurs orateurs, parmi lesquels le général Eudes, qui a participé à la commune, Roche, Vinant, etc., prennent la parole. Mais comment captiver l'attention lorsqu'on parle après Louise Michel? Et oui, c'est le journaliste du Gaulois qui écrit ça. Nos bavards s'en aperçoivent bien, car aussitôt que l'ange de la commune cesse de parler, tous les assistants gagnent la porte et s'échappent à l'anglaise. À la salle Lévy. Donc on voit que là, le Gaulois fait le recensement de trois réunions. Leurs affiches étaient superbes, on y promettait un tas de choses, et les noms des orateurs qui devaient prendre la parole suffisaient largement à attirer les gogos. Aussi, ceux-ci qui ne manquent pas dans la grande ville étaient-ils venus en foule à la salle Lévy pour assister à ce qu'on leur avait promis, c'est-à-dire une réunion contradictoire de la libre pensée. Grande a dû être leur déception, car les affiches étaient menteuses, et les orateurs convoqués s'étaient abstenus de venir avec un ensemble parfait. Ils n'ont donc eu ni l'évêque Frépel, ni le père Montsabré, ni monsieur Clémenceau. Ah oui, c'était écrit sur l'affiche, hein. Réunion contradictoire avec la présence de ces trois-là, alors évidemment. Quant à nous, la chose ne nous a pas étonnés, mais ces 3000 naïfs qui remplissaient la salle ont été fort maris et ont exprimé leur mécontentement en faisant un tapage d'enfer et en interrompant à chaque seconde les quelques hommes de bonne volonté qui avaient consenti à monter à la tribune. Et alors, le 28 janvier, c'est la chute du cabinet de Charles Duclerc. Le 29 janvier, c'est le cabinet Armand Falière. Et cela, il va tenir jusqu'au 17 février, donc un petit peu plus de 2 semaines. C'est Ferry donc qui va reprendre après. Le Gaulois, donc du lundi 29 janvier 1883, donc encore une réunion à la salle Lévy. La salle Lévy, donc, elle est au Batignolles. Réunion contradictoire. On a entendu, entre autres orateurs, la citoyenne Louise Michel, les citoyens Jules Guedes, Lafargue et monsieur Pierre, député royaliste du Gard, qui a réussi à se faire écouter et applaudir. Et alors, l'orateur déclare qu'il veut répondre à l'opportuniste qui descend de cette tribune et qui vient de faire un éloge pompon, mais peu mérité, des qualités de Gambetta et du grand ministère. Donc évidemment, c'est ce député royaliste. Et alors, elle continue. Donc, monsieur Adolphe Pierre dit que Gambetta n'aimait pas le peuple. Il s'en servait pour les besoins de sa cause et l'avait souvent trahi. Gambetta, dans un jour de franchise, n'a-t-il pas appelé ses électeurs, c'est-à-dire le peuple, un tas d'esclaves ivres? Eh oui, c'est un mot de Gambetta, ça. Puis l'orateur, donc ce député royaliste, fait l'historique de la situation et met les républicains au défi de faire des réformes utiles au peuple, au plus grand nombre. Il défie les députés républicains d'appliquer leur programme, de tenir leurs promesses. Dans la salle, on entend très bien, très bien. Et alors, voilà une phrase entre guillemets là, du journaliste. La Chambre est impuissante. On joue au Parlement guignol, tandis que dans le pays se jouent les drames de la misère. Le pays est fatigué et veut une solution. Il faut en finir. Et oui, ça va être l'émergence du catholicisme social. Là, les cathos se rendent compte qu'il y a une place à prendre. Puisque de toute façon, cette Troisième République a oublié tout le volet social des lois qu'elle a été prendre, dont elle s'est inspirée, donc dans les décrets de la commune. Alors que la commune, c'était le social qui prévalait, et puis bon, la loi venait derrière, la Troisième République, c'est rigoureusement le contraire. Et puis alors, il continue donc, Pierre, puis parlant du complot, il dit que les conspirations ont été inventées par le ministère, méditant quelques mauvais coups contre le peuple, après Monceau-les-Mines, le procès de Lyon, après le soi-disant complot royaliste, l'expulsion des princes, enfin, Le député royaliste termine en déclarant que la République s'amuse et se détruira d'elle-même par la force des choses. La persécution n'a jamais servi à rien et les Français qui en font le cœur généreux se rangent toujours du côté des persécutés. Applaudissements. Louise Michel interrompt alors l'orateur afin qu'il donne des explications sur les poignards crucifix. Le député Adolphe Pierre n'est pas embarrassé pour répondre. Où est-ce qu'il dit ? J'ai vu, à la chambre, un échantillon de cette terrible arme de guerre. Eh bien, j'en ai conclu, après un examen minutieux, que ces prétendus poignards ne pouvaient servir que de coupe-papier, de grattoir ou de cure-dent pour de fortes mâchoires. Rire et applaudissements. Nous avons, ajoute-t-il, des armes plus redoutables et que vous n'avez pas la croix et la prière. Applaudissements, tatata, protestation. Voilà. Et avec ces armes, donc la croix et la prière, nous pouvons attendre avec confiance l'heure qui est à Dieu et la parole qui est à la France. Voilà. Alors évidemment, ça a pas du tout plu. Hein. Après donc ce député royaliste, le citoyen Jules Guéret fait un discours des plus violents contre la bourgeoisie et le capital. Il a conclu à l'expropriation des princes d'Orléans et des princes de la finance, dont les biens doivent être acquis à la nation. Ensuite, Louise Michel a prononcé quelques paroles sans importance. Elle a comparé les ministres affolés à des chiens qui auraient des casseroles attachées à la queue et déclaré qu'elle n'estimait qu'un seul homme, monsieur de Charette, grand bien lui fasse. Le citoyen Lafargue dit à son tour que la France n'avait en perdant monsieur Gambetta perdu qu'un ventre putride. Là-dessus, un ex-rédacteur de la Petite République monte à la tribune et éclate en paroles véhémentes. La sortie a été assez tumultueuse, mais sans incident grave. Alors, on passe aux Gaulois donc du mercredi 21 février. À la une, sur deux colonnes, il y a la reproduction d'une affiche. Voilà. Alors évidemment, le 17 février, c'est la chute du cabinet Falière, et le 21 février, c'est le cabinet Jules Ferry, qui lui va tenir jusqu'au 30 mars 1885. Ferry, le répresseur, Ferry, l'affameur de la commune, avant de prendre le nom de Ferry Tonquin avec cette affaire de Longsanne, mais plus tard, donc où Jules Ferry là va tomber dans un traquenard lancé par Clémenceau. Mais Ferry, là, pour les participants à la commune, pour les fédérés, Ferry est du côté des massacreurs, Ferry est du côté des Versaillais, Ferry est la continuation d'Adolphe Thiers, hein, ce Jules Ferry, hein, faut pas se tromper, hein. Et alors, là, le Gaulois en profite, hein. Donc, reproduction d'une affiche, hein. Alors, il y a le titre, Jules Ferry, vieux premier en tout genre. Donc, le titre de la pièce, c'est Le courrier de Lyon ou l'attaque du ministère. Et puis, on apprend que les rôles sont tenus par des ministres en poste ou passés. La musique, eh bien, c'est sur l'air du chant du départ. Et donc, Louise Michel joue le rôle de Julie Le Surc. Voilà. Donc, c'est la reproduction d'une affiche en première page du Gaulois. Donc, on voit que Jules Ferry n'est pas aimé ni par les socialistes, ni bien sûr par les monarchistes, et encore moins par les bonapartistes. Hein. Mais il va tenir. Vendredi 23 février, à Bruxelles, Métayer est tué lors d'un essai d'une bombe, et c'est là où Sivocte est blessé, et il va être condamné à 3 mois pour usage de faux, donc par un tribunal de Bruxelles, hein, puis extradé en France. Et là, il va être jugé donc dans l'affaire de l'Assommoir, et il sera jugé le 11 décembre 1883 à Lyon, et là, évidemment, il n'est pas prêt de sortir de prison. Le Gaulois du lundi 5 mars 1883, on est encore dans les réunions publiques, hein, et c'est à la salle Graffard. Les programmes des réunions révolutionnaires promettent beaucoup, mais tiennent peu. On nous annonçait en effet pour hier un discours de Louise Michel. Étaient convoqués messieurs Sigismond Lacroix, Tony Révillon, Jules Geoffrin, Lefebvre, etc. Et il n'y a eu ni harangue de la grande citoyenne, qui s'était fait excuser à la dernière heure, ni aucun des citoyens nommés plus haut présents à la réunion. Le tout s'est borné à une conférence de monsieur Lafargue. Après lui, Jules Guéret a pris la parole. Et voilà ce qu'il dit. « Votre civilisation bourgeoise, mais elle a inventé le fusil qui tue 8 hommes. » Alors, question du journaliste. Mais où diable, monsieur Jules Guéret, a-t-il eu cette statistique précise? Oui, c'était des fusils à un coup, hein, le chasse-pot, c'était un coup. Et alors donc, le fusil qui tue 8 hommes, le canon qui en tue 30. Voilà. Et puis alors, le journaliste continue, et Jules Guette fait une sortie violente contre le luxe des femmes. Et voilà ce qu'il dit. « Les dentelles que portent les femmes riches, combien d'heures de travail ont-elles coûté ? De pauvres filles ont-elles perdu la vue à ce minutieux et difficile métier ? Ces travaux-là ont déformé leur corps. Ce n'est pas une raison pour que les femmes du monde portent des manchettes de calico au lieu de dentelles, comme pourrait vouloir le signifier Jules Guède. » Voilà, donc on voit que le journaliste là n'est pas du tout d'accord. Et alors il continue, journaliste, quelle drôle de manière d'envisager les questions sociales. Voilà à présent les Malines et les Valenciennes, donc les dentelles, hein, dentelles de Malines et de Valenciennes, qui sont entre les mains des bourgeois, qui sont des armes pour opprimer le peuple. Monsieur Jules Guède a du succès, les 400 personnes réunies à la salle Graffard lui font une véritable ovation à ce député possible qui, s'il est nommé, doit verser son indemnité dans la caisse du parti ouvrier. Celui-ci, en revanche, allouera une subvention de 5 ou 6 francs par jour probablement. À cela, monsieur Jules Guède ne se mollira certes pas dans les délices. Et oui, puisqu'on approche donc des élections législatives pour remplacer Gambetta qui vient de Tlemcen, hein. Jules Guède semblerait se mettre sur la liste. Le Gaulois, jeudi 8 mars. Et oui, c'est le meeting, hein. Et ça titre comme ça, le meeting. En voulant empêcher le meeting des ouvriers sans ouvrage, dont les nouvelles diverses du Gaulois ont parlé hier, le ministère l'a rendu inévitable. Le préfet de police a envoyé hier au journal Le Temps une note annonçant que le gouvernement ferait respecter, même par la force, la loi qui interdit les réunions en plein air. Là-dessus, la commission organisatrice du meeting, qui délibérait, qui hésitait et qui allait ajourner la manifestation jusqu'à dimanche, a pris une décision. Eh oui, du fait que c'est interdit, on le fera. Le meeting aura donc eu lieu demain. Ce matin, le journal Le Citoyen et le journal La Bataille en publiera l'avis. Sans tomber dans les exagérations de quelques-uns de nos confrères, nous pensons que la manifestation aura de l'importance. On peut compter que 5 ou 6 000 personnes, manifestants et badauds, se rendront sur l'esplanade des Invalides. Dans cette foule, en outre des curieux et des ouvriers, il y aura des révolutionnaires en grand nombre. Nous savons que les anarchistes iront au meeting. On nous a encore assuré que les blanquistes s'y rendraient. Sur les interventions de ces derniers, on ne sera pas fixé avant ce soir. C'est en effet aujourd'hui que se tient la séance hebdomadaire du club blanquiste de Tivoli Vauxhall. Enfin, tous les collectivistes ne s'abstiendront pas. La présence de tous ces révolutionnaires implique la présence d'un nombre respectable de revolvers sur l'esplanade demain. Sans doute, il y a plus de chances pour que les revolvers restent dans leur poche. Mais, comme il y aura beaucoup de police et peut-être des agents provocateurs, il se pourrait que la bagarre, s'il y en a une, finisse mal. Comme nous demandions hier soir à un des organisateurs du meeting quelle était la pensée mère de cette manifestation, il nous disait « Les réunions publiques entre quatre murs n'ont servi qu'à faire des réclames aux parleurs. Le peuple veut faire autre chose. Nous irons maintenant chez le gouvernement au lieu de crier contre lui dans une salle fermée. » Ces dispositions du peuple seront vivement encouragées par les agitateurs de profession qui espèrent que les meetings en public tourneront un jour ou l'autre à l'émeute. Dans le second meeting, celui des maçons, qui aura lieu dimanche, place de l'Hôtel de Ville, aura attrait de plus que le meeting de demain. Les maçons sont résolus à aller jusqu'à l'Élysée pour faire connaître leur misère à monsieur Jules Grévy. Et oui, et alors là, bah oui, dimanche, c'est le premier tour des élections législatives, donc à Belleville, hein. Et alors, on peut prendre le journal Le Gaulois, hein, du lendemain, le vendredi 9 mars 1883. Donc évidemment, c'est le jour du meeting en plein air, place des Invalides, mais qui est rigoureusement interdit. Alors ça commence comme ça, c'est en première page. Si le nombre des manifestants et des badauds qui se rendront aujourd'hui sur l'esplanade des Invalides répond à l'importance des précautions prises par le gouvernement contre la manifestation, nous aurons une journée au sens révolutionnaire et historique du mot. Hier, en effet, après le Conseil des ministres, M. Waldeck-Rousseau, ministre de l'Intérieur, a fait appeler M. Schnerb, directeur de la Sûreté Générale, et M. Kamescas, préfet de police. Les agents auront pour consigne d'empêcher sur l'esplanade la formation des groupes, le stationnement et de maintenir la circulation. Les groupes qui ne se disperseront pas après invitation et sommation seront dissous par la force. Les organisateurs du meeting faisaient imprimer et coller sur les murs de Paris l'avis suivant. Donc voilà l'affiche qui appelle. Donc c'est un grand titre, grand meeting public en plein air sur l'esplanade des Invalides. Le vendredi 9 mars 1883 à 2h de l'après-midi. Alors, le texte de cette affiche est reprise dans le journal Le Gaulois en première page. Voilà, comme publicité, on a quand même du mal à trouver mieux, parce que Le Gaulois, il tirait quand même à énormément d'exemplaires. Hein. Donc, ordre du jour. Invitation au gouvernement à prendre des mesures immédiates pour donner du travail, du pain, à ceux qui n'en ont pas. Camarades, en présence des chômages et de la misère que nous subissons, en présence de l'indifférence de ceux qui nous gouvernent, un grand nombre d'entre nous ont pris l'initiative de ce meeting. Que pas un de nous ne manque à ce rendez-vous pacifique pour bien démontrer notre droit à l'existence. Si notre riche République n'a plus de travail à nous donner, elle doit au moins nourrir le créateur de sa richesse, son plus ferme soutien, l'ouvrier. Et donc c'est signé la commission et suivent les noms de Labat, Montand, Gautier, Cardillac, Cortelier, Ouvrier, Menuisier. Donc c'est les ouvriers menuisiers, la place des Invalides. Le dimanche, ce sera les maçons, les ouvriers maçons. Alors, on peut voir, là, c'est repris dans Le Gaulois, le texte de cette affiche qui appelle à manifester. Ça serait quand même curieux à l'heure actuelle de revoir, reprendre donc une affiche, un appel à manifester ou un appel à soutien émanant du DAL ou de je sais pas quoi, ou, bah, pourquoi pas de la Fédération anarchiste, reprise in extenso en première page dans Le Gaulois, dans le Figaro, dans Le Monde, dans Libération pour disons appeler signaler qu'il y a une manifestation l'après-midi même. Voilà, c'est absolument pour moi ce qui se passait donc en 1880. Là, c'était très très curieux. Hein. Et alors, donc le journaliste continue. Cette invitation a été imprimée sur papier rouge à l'imprimerie Lefebvre Fils, passage du Caire, 87 et 89 à Paris. Il en a été tiré dans la matinée d'hier 3000 exemplaires que les colleurs se sont aussitôt partagés. L'affichage commencé vers midi et a été empêché sur plusieurs points par les gardiens de la paix. Bah oui, mais c'est repris par un journal qui, de toute façon, est lu pratiquement, sera lu le lendemain pratiquement par tous les Parisiens. L'enlèvement des affiches et le bruit que le ministère se préparait à employer la force contre le meeting a surexcité les passions dans tous les groupes révolutionnaires. La manifestation d'aujourd'hui n'aura d'importance que par le fait du gouvernement. En laissant voir que la réunion publique en plein air des ouvriers sans ouvrage lui serait désagréable, il a tout naturellement donné à ses ennemis révolutionnaires l'idée de s'y associer. Hier, dans la journée, et surtout dans la soirée, les groupes anarchistes, collectivistes et beaucoup de chambres syndicales ont décidé de se rendre sur l'esplanade. Un syndicat qui, jusqu'ici, n'avait pris part à aucune action révolutionnaire, le syndicat des employés de commerce, a voté un ordre du jour d'adhésion au meeting. Les révolutionnaires de Montmartre, gens très actifs, la Réunion, espèce de comité central des groupes anarchistes, les étudiants révolutionnaires aussi, ont voté des résolutions semblables. Alors c'est très intéressant là, parce qu'il y a des noms là qui apparaissent, hein, et qu'on retrouve pas, disons, sous la plume d'historiens de ces mouvements sociaux de la fin du 19e siècle. Hein. Évidemment, ça apparaît peut-être dans les rapports de police, mais là, le journaliste du Gaulois fait vraiment un travail, les journalistes du Gaulois font un travail absolument remarquable d'investigation, hein, et puis de propagation des idées. Alors évidemment, c'est pas neutre, hein, on s'en rend compte, ils sont parfaitement anti-républicains. Alors, bah oui, là, les ennemis de nos ennemis sont peut-être un petit peu nos amis, hein. Alors du côté, évidemment, on va voir. Là, il y a une réunion qui est organisée et on invite les journalistes, hein, les révolutionnaires, les anarchistes invitent les journalistes. Et là, ça va très mal se passer pour les journalistes et plus particulièrement les journalistes du Gaulois. Hein. Voilà. Donc, si le Gaulois se sert donc des révolutionnaires pour affaiblir la République, il est évident que les révolutionnaires en aucun cas se servent des bonapartistes ou des monarchistes pour affaiblir donc ou tout au moins obtenir des lois sociales de la part de cette République. Hein. Voilà. Et alors, voilà, ça continue comme ça. Chacun de ces groupes a assigné à ses adhérents un rendez-vous. Les étudiants partiront du café Soufflot, boulevard Saint-Michel. Les gens de Montmartre, de la place d'Anvers, etc. À la salle d'Hydro, rue des Arquebusiers, le club blanquiste s'est occupé de la question des meetings. Plusieurs orateurs ont déclaré qu'il faudrait faire droit aux réclamations du peuple. Sinon, on verrait ce qui se passerait demain. La citoyenne Louise Michel a dit... Alors c'est là qu'on se rend compte qu'elle est dans, elle est disons bien accueillie dans les clubs blanquistes, hein. C'est, enfin tout au moins dans les réunions de sensibilité blanquiste qui sont quand même particulièrement autoritaires. Hein. Donc voilà, la citoyenne Louise Michel a dit « Je ne sais ce qui arrivera demain, mais s'il y a du sang versé, la responsabilité en retombera tout entière sur les Versaillais qui nous gouvernent. » Donc les Versaillais qui nous gouvernent, bah oui, c'est Jules Ferry, hein, ça y est, là c'est fait. Hein. Nous avons parcouru hier le quartier des Invalides, les boutiquiers et les bourgeois ont une belle peur que le meeting ne brise leur devanture et leur carreau. Il ne faudrait pas être étonné si aujourd'hui, quelques boutiques étaient fermées. Et alors, le journaliste et Louis Lambert se posent la question, maintenant, tous les préparatifs militaires qu'on a fait serviront-ils? Oui, sans doute, si la police n'est pas assez forte pour empêcher la foule d'envahir l'esplanade des Invalides. Non, si les manifestants peuvent être écartés successivement et se dispersent avant d'arriver au rendez-vous général. À minuit, il neige. C'est un auxiliaire qui tombe du ciel au gouvernement. Voilà. Et ça, bien peu, sur les rapports de cette manif, on dit qu'il neigeait dans la nuit. Ce qui veut dire qu'il va faire très froid. Donc le lendemain matin, le jour de cette manif, hein, très très froid, hein, il neige. Hein. Et alors, on continue donc la lecture du Gaulois. Nos élus viennent de repousser la révision de la Constitution qu'ils avaient promise à leurs électeurs. Ils ont sacrifié d'honorables scrupules à de non moins respectables inspirations. Mais qu'ils prennent garde maintenant de ne pas faire pour cette même révision ce que les futurs amnistiers de Lyon et de Montceau-les-Mines appellent la propagande par le fait. Eh oui, la Ligue révisionniste prend du corps. Décidément, nous trouvons dans le journal La Justice la résolution suivante, adoptée par l'extrême-gauche. Alors ne pas confondre l'extrême-gauche avec les anarchistes, hein, évidemment. Voilà. Le groupe décide l'organisation d'une ligue républicaine pour la révision des lois constitutionnelles. En conséquence, elle charge son bureau de convoquer dans le plus bref délai, avec les députés républicains qui ont voté la révision, les sénateurs, les conseillers municipaux de Paris, les représentants de la presse et les délégués des groupes républicains disposés à s'associer à cette ligue. Alors, évidemment, il y a Clémenceau hein, derrière, hein, ça c'est sûr. Hein. Monsieur Jules Simon, qui paraît ensuite, donc, et voilà ce qui se passe à la Chambre des députés. Monsieur Jules Simon, qui paraît ensuite à la tribune, résume la question. Il rappelle l'importance de cette loi, donc de révision constitutionnelle, attendue depuis si longtemps, et à laquelle le gouvernement veut substituer une loi d'exclusion qui établira la liberté d'association pour tous les citoyens, excepté pour le monde religieux. Après une nouvelle charge de monsieur Tolin, ah, eh oui, Tolin, Tolin. Eh oui, et il a siégé à Versailles. Hein. C'était le seul, donc, le seul qui a été seul fait, participant de la Commune hein, en 1871, qui a été élu donc à Versailles et qui n'a pas démissionné. Mais quand on voit les comptes rendus de l'Assemblée de Versailles, Tolin prenait la parole. Hein. C'était pas facile hein, pour lui. Hein. Alors évidemment, il a été considéré comme traître, hein, Tolin. Et on voit que là, il continue, Tolin. Donc après une nouvelle charge de Monsieur Tolin, qui profite de la circonstance pour réclamer à corps et à cri la séparation de l'Église et de l'État, M. Marcel Barthes apporte une argumentation spécieuse sur la situation inférieure qui serait faite aux congrégations dans le cas même où le projet sera adopté. Elle ne leur permettrait pas de se reconstituer telles qu'elles existaient auparavant. C'est-à-dire, en un mot, elles n'obtiendraient pas tout ce qu'elles réclament, donc ne leur accordez rien. Voilà ce que dit éclair Jules Simon. La clôture est demandée, on passe au vote, par 169 voix contre et 122 pour, l'article 1 est repoussé. Et alors, ça c'est la, donc la lecture de la presse par le Gaulois, un autre journal tout neuf, La Vengeance anarchiste, organe hebdomadaire. Alors voilà ce que dit le chroniqueur du Gaulois. Hein. C'est très intéressant, le journal Le Gaulois cite les journaux anarchistes, hein, et là donc c'est la création d'un journal, hein, La Vengeance Anarchiste. Alors il va pas durer longtemps, évidemment, puisque c'est quand même Louise Michel qui, disons, doit être la principale rédactrice, et Louise Michel en a plus pour très longtemps de liberté. Hein. Le titre est déjà un drapeau. Mademoiselle Louise Michel est une des plumes de ce périodique. Elle écrit ce joli entrefilet sur l'anarchie. Donc Le Gaulois reprend l'écrit de Louise Michel dans La Vengeance Anarchiste. Alors on va me dire, ouais, c'est pas, voilà, ça faisait de la concurrence à La Vengeance Anarchiste. Oui, mais les idées passent. Les idées passent. Hein, et c'est bien le but de Louise Michel. Anarchie, mot gros d'orage dans le présent, plein d'apaisement pour l'avenir. Le pouvoir, l'ambition n'empliront plus le cœur de l'homme de leurs appétits de fauve. La petite vanité bête des individus sera transfigurée dans le grand orgueil de la race humaine. On se demandera avec étonnement comment on a pu lutter si longtemps contre le sens commun, soutenir si longtemps que la ligne courbe est le plus court chemin d'un point à un autre. Anarchie, petite lueur lointaine, pareille à la lampe qui brille dans la nuit, je te salue, car tel que tu es, tu nous sers de phare et tu grandiras encore. L'aurore du droit remplaçant la force. La lanterne. Voilà donc voilà le passage donc qui est repris par le journal Le Gaulois, donc écrit par Louise Michel dans ce tout nouveau journal qui vient de paraître, là, qui vient de sortir, qui a pour titre La Vengeance Anarchiste. Voilà. Et alors, voilà aussi ce qu'on peut lire dans La Lanterne. La lanterne prêche la croisade de la révision. Le vote de mardi, ce vote de reniement de la parole donnée a pour conséquence nécessaire une agitation légale mais énergique en faveur de la révision. Donc la révision, notamment, il y a la séparation de l'Église et de l'État dedans. Hein. Monsieur Camille Pelletan pose aussi la question dans le journal La Justice. La question, dit-il, n'est plus entre les élus du suffrage restreint et ceux du suffrage universel, elle est entre le suffrage universel et ses mandataires infidèles. Monsieur Marais, du journal Le Radical, fait des promesses de Jules Ferry, le cas qu'elle mérite. Voilà. Et le journal La Vérité fait à Monsieur Jules Ferry l'honneur de prophétiser qu'il sera le Guizot de la République. Donc, il ressort que Jules Ferry est absolument contre la séparation de l'Église et de l'État. Hein. Et du reste, il y a certains discours de Jules Ferry qui sont même plus qu'ambigus, hein, puisque il réserve le jeudi pour l'éducation religieuse. Il explique bien dans sa lettre aux instituteurs que faut surtout pas toucher donc à l'esprit de l'enfant. Hein. Il faut laisser donc aux parents laisser s'insuffler dedans donc cette grande idée de soumission que peut être la religion, hein, très ambigu, hein, Jules Ferry, hein, même plus qu'ambigu, hein. De toute façon, lui, c'est l'école de la revanche, hein, c'est former des bons petits soldats pour aller reprendre l'Alsace et la Lorraine, hein. Du reste, il est quand même impliqué, hein, par alliance, hein, puisque son épouse était vaguement alsacienne ou lorraine, hein, je sais plus trop, mais et de toute façon, rien de mieux donc que la religion pour abêtir un individu. Hein, et il se sert bien donc de l'école comme d'une formation pré-militaire. Hein. Du reste, on n'est pas dans l'école, on n'est pas, disons, dans l'école mixte, hein, à part donc dans les toutes petites classes. Donc, ce qui veut dire que pour les garçons, bah, il y aura maniement du manche à balai. Pour les filles, bah, il y aura travaux de couture. Hein. On en est là. Hein. Et Jules Ferry, bon, pour certains, c'est une grande divinité, grand laïc devant l'Éternel. On se demande où ils vont le chercher, hein, mais bon, chacun peut voir. Le rappel, donc le journal Le Rappel est plus accommodant. Il a à la rigueur 3 ans de patience au service de la République. Oui, dans moins de 3 ans, en dépit des cabinets de résistance, en dépit du Sénat, légalement, sûrement à date fixe, le Congrès se réunira à Versailles, d'abord pour donner un successeur à Monsieur Grévy, ou pour le réélire, ensuite pour faire tout ce qui peut se faire dans une république, une assemblée souveraine. Quand un peuple a cette large voie devant lui, cette grande porte ouverte sur l'avenir, il n'a pas besoin de se désespérer, ni de se jeter dans les chemins de traverse. Donc on voit que le journal Le Rappel Dit que il y a 4 ans encore à attendre, hein. Il y a 3 ans à attendre, hein, parce que Jules Grévy, ça fait 4 ans qu'il est élu, hein, président de la République, donc il reste plus que 3 ans. Donc c'est pas la peine de manifester, ça se résoudra donc dans les urnes. Hein. Alors le journal Le Gaulois, donc du samedi 10 mars 1883, donc c'est sur 6 colonnes en première page. Voilà la première journée. Voilà. Donc c'est la relation donc de cette manif de la place des Invalides, hein. L'esplanade des Invalides. Le vin est tiré. La journée d'hier a sa gravité, dont il convient de parler sincèrement, sans l'exagérer, ni la moindre rire. Ce qui la caractérise, à notre avis, c'est l'absence de préméditation politique, le défaut de chef autorisé et de mots d'ordre définis. Tous les organes de l'opinion révolutionnaire la plus avancée avaient désapprouvé, déconseillé le projet de meeting. Beaucoup de radicaux, et surtout d'opportunistes, ont traité la chose de canard couvé par les réactionnaires du Clairon, du Figaro, du Gaulois. Donc le Clairon, le Figaro, le Gaulois sont des journaux réactionnaires, c'est le Gaulois lui-même qui le dit. Hein. Eh bien, la manifestation a eu lieu et elle a dépassé ce que nos informations annonçaient. Évidemment, à partir du moment où le journal Le Gaulois, disons, fait une publicité, mais dans le sens large du terme, hein, donc publie les textes anarchistes, hein, reprend les affiches, hein, donc anarchistes, on considère que soit les anarchistes sont complices des monarchistes, hein, ou alors le Gaulois, là, il y a un problème, hein, donc c'est bien ce qui ressort. Une foule considérable de malheureux, que la faim, le froid, la souffrance, argument persuasif que la voix des feuilles révolutionnaires ont jeté sur le pavé, est venu promener à travers les rues de la République les protestations sinistres de sa misère. Sur plusieurs points, la cavalerie a dû charger. Ailleurs, les bourrades et les casse-têtes ne suffisant pas, les agents de police ont dû faire luire au soleil l'acier de leurs sabres. Il y a eu quelques blessés. 3 ou 4 000 personnes, peut-être, avaient pris la direction de l'Élysée. D'autres se sont engagés sur le boulevard Saint-Michel, où des boulangers ont été mis à sac. C'était bien la manifestation des ventres vides. On pensait si peu au combat, on cherchait si peu des munitions ou des armes, que personne n'a songé aux boutiques des armuriers. Alors, oui, là, cette remarque du journaliste est vraiment frappée au coin du bon sens, hein. Il y avait des femmes, hâves, tenant par la main des enfants déguenillés et frissonnants sous l'âpre brise. Et oui, il y a neigé toute la nuit. Il y a neigé, hein. D'autres avaient apporté avec elles un petit paquet contenant leur dernière harde, celle que le monde-piété dédaigne. C'est que ces malheureuses créatures réclament de la République. Est-ce l'expulsion des princes ou des congrégations? Est-ce la révision? Non, hélas, leur ennemi à elles, c'est la faim. Elles n'en connaissent point d'autres. Pour avoir le loisir de déclarer la guerre au cléricalisme ou au Sénat, il faut être des heureux qui savent ce qu'ils mangeront le soir et où ils coucheront la nuit. La vérité, c'est que le chancre d'une épouvantable misère ronge une partie des classes dites laborieuses, qui ne trouvent plus l'emploi et le salaire de leurs bras. C'est que l'industrie du bâtiment n'allant plus, rien ne va plus, dans les nombreuses industries qui en relèvent, c'est qu'après avoir surexcité les appétits, multiplié les promesses, enivré les cerveaux, les politiciens de la République, qui proclament à l'envi le règne de l'ouvrier, ne savent pas plus le soustraire à la tyrannie des besoins matériels qu'à l'aveuglement d'une ignorance qu'ils exploitent. Alors, ce texte, évidemment, c'est une analyse, hein. Il est signé Henri de Peine. Voilà. Alors je continue. La journée d'hier n'a été rien moins qu'une émeute, tout au plus de la part de la masse une remontrance. Aucune organisation préalable, pas de concert, pas même de cri de ralliement. On ne savait pas où l'on voulait aller. Ceux qui ont pris la route de l'Élysée à tout hasard, espéraient-ils, comme les affamés des 5 ou 6 octobre 1789, qui allèrent à Versailles chercher le roi, la reine et le dauphin, ont ramené le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Hélas, mes pauvres amis, monsieur Grévy et monsieur Wilson ne vous donneront jamais à manger, même pas le foin dont leurs bottes sont pleines. La journée d'hier est un signe et un commencement. Il n'y a guère eu, en fait de meneurs un peu connus en dehors de leur groupe, que l'éternel Louise Michel, aux excitations de laquelle la foule s'est montrée sur plusieurs points rebelle, si j'en crois les relations qui me parviennent. quelques cris anarchiques, quelques vitres cassées, une demi-douzaine de voitures assaillies, ne constitue pas une journée de véritable violence. La brutalité a été plutôt du côté de la répression que de l'attaque. Il n'y a même pas eu d'attaque à proprement parler. Cri de douleur plutôt que cri de guerre. Mais soyez tranquille, nous n'avons encore assisté qu'au prologue et les grands acteurs paraîtront dans la suite de la pièce. On a encore fait que tâter le fer. À plus tard, peut-être à demain, les engagements sérieux. Quand un gouvernement a tout fait pour détacher de lui les honnêtes gens, pervertir les cœurs, égarer les cerveaux, quand il s'est fait un jeu de miner le sol sur lequel toutes les sociétés civilisées sont assises, quand il a prêché que tout réside dans la matière et qu'il la met aux prises avec la famine, on n'a que trop lieu de craindre. De plus, voilà que les députés républicains viennent d'enseigner au peuple par leur conduite dans la question de la révision qu'ils se moquaient des engagements pris envers leurs électeurs. Alors, la souveraineté de ceux-ci n'est qu'un leurre. Et ils en pourront conclure que le temps de recourir aux cartouches est revenu puisque le bulletin de vote ne les remplace pas, comme ils l'avaient pu croire. Alors, et oui, on est dans cette idée de 1848, hein, où il a été dit, eh bien, vous nous donnez vos fusils, on vous donnera des bulletins de vote, suffrage universel, oui. Et puis, bah, les révolutionnaires de février 1848 ont bien donné leurs fusils, oui. On leur a donné des bulletins de vote, mais seulement en juin, ils avaient voté pour ceux qui allaient leur tirer dessus. Et là, bah, ils avaient plus ni bulletin de vote, ni fusil, hein. Et c'est ce que Henri de Peine rappelle. Alors, Henri de Peine, peut-être quelques mots, hein. Il a commencé au journal Le Figaro, donc où il signait Nemo. Et puis il va fonder donc ce journal Le Gaulois en 1868. Et puis il va suivre aussi Paris Journal. C'est un chroniqueur. Il a écrit des romans aussi, notamment Les Mémoires d'une femme de chambre. Historien. Il a écrit une biographie du comte de Chambord. Voilà. Il est royaliste, on s'en rend compte, hein. Il attaquera la République durant jusqu'à la fin de sa vie. Il est hostile à la Commune de Paris. Et oui, il a été blessé le 22 mars 1871, rue de la Paix, lors de la manif des gens d'ordre. Hein. Alors cette manif des gens d'ordre, bah oui, le problème c'est qu'ils avaient donc les fédérés en face d'eux, hein, les gardes nationaux en face d'eux, hein, rue de la Paix, hein, puisque le siège de la garde nationale était place Vendôme. Hein. Donc ces gens d'ordre arrivent, hein, c'est après le 18 mars, hein, donc ils sont pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se mettre en place. Hein. Et puis, bah il y a des coups de fusil qui sont tirés. Mais le problème, c'est que tous ceux qui ont été blessés et ceux qui ont été tués l'ont été dans le dos. Ils n'ont pas été de face, alors qu'ils faisaient face donc aux fédérés. Hein, voilà. Alors donc, cet Henri de Peine a été blessé. Donc le 22 mars 1871, dans cette manif des gens d'ordre. Hein. Et alors, il va se défoncer au travail. Hein. Alors, il est dit que évidemment, il a une belle plume, on l'a vu hein, quand même là. Il va travailler donc toute sa vie pour écluser les dettes que son père avait fait, puisque son père était donc monarchiste. Hein. Il y avait un château, hein, j'ai plus le nom du château. Enfin, toujours est-il qu'il va passer une partie de son existence à rembourser les dettes de son père. Hein, c'est Henri de Peine. Et alors, oui, le Gaulois sera repris par le Figaro. Donc, mais ça après, bien après 1900. Hein, donc, alors le meeting. Voilà. Donc on voit là, il y a cette idée de pièce, hein, de pièce de théâtre hein, qui se met en place. Hein. Et donc, c'est l'idée du Gaulois de le voir comme ça. Hein. On peut estimer à 20 ou 30 000 le nombre des individus qui ont pris part à la démonstration des ouvriers sans ouvrage. Alors là, on a vu, là, c'était les menuisiers. Là, hein. La police a chargé, la cavalerie a chargé, il y a eu des contusionnés et un noyé. La manifestation a été en 5 actes, comme un drame. Premier acte sur l'esplanade, deuxième acte, la marche sur l'Élysée. Troisième acte, autour de l'esplanade. Quatrième, la traversée de Paris par Louise Michel. Cinquième, les charges. Alors, sur l'esplanade. Nous avons dit hier les dispositions prises par la police. L'esplanade a été occupée, comme nous l'avons annoncé, à 8h du matin par la force de l'ordre. Au débouché des rues de Grenelle, Saint-Dominique de l'Université, Faber, des escouades nombreuses furent placées. Les agents avaient la consigne de ne laisser passer aucun groupe. Donc c'est Jules Ferry hein, qui tient le truc. Hein, là. Les ouvriers, les curieux et les journalistes n'ont donc pu entrer sur l'esplanade que par le quai. L'égroupement a été long, vers 1h, 13h, 4000 personnes seulement étaient dispersées sur la place et, dans cette immensité, paraissaient beaucoup moins nombreux. Avant que la foule s'augmentât, les manœuvres de dispersion commencèrent. Mais pour que cette manœuvre fût efficace, il aurait fallu que les escouades se développassent sur un front égal à toute l'étendue de la place. Or, le front n'avait pas 40 mètres de large, les ouvriers n'avaient donc qu'à courir à droite et à gauche pour échapper aux gardiens de la paix. Et chaque fois qu'une escouade manœuvrait, c'était des cris, des insultes. « À bord les vaches ! Mort aux vaches !» Et irrités de courir pour rien et d'être encore outragés, les agents se faisaient violents. Cependant, dans un café situé au-delà de la place, rue Faber, les chefs de l'anarchisme discutaient. Ils étaient indécis, voulant faire quelque chose et ne sachant pas ce qu'ils feraient. De 5 minutes en 5 minutes, l'un d'eux sortait, donnant un mot d'ordre, toujours le même. Échapper aux agents et rester sur la place jusqu'à ce qu'on fût en nombre. À 2h, 14h, il y avait 15 000 hommes sur l'esplanade. Louise Michel arriva. Elle conduisait les groupes anarchistes qui s'étaient réunis devant l'Institut au Pont des Arts. Un de nos collaborateurs était allé à ce rendez-vous des anarchistes. Donc on se rend compte que les journalistes du Gaulois font un sacré travail. Hein. Donc voilà, à ce rendez-vous des anarchistes, au moment où la citoyenne Louise Michel allait partir, il lui dit « Vous allez vous faire sabrer, citoyenne. Vous n'avez donc pas peur pour votre peau ?»« Je m'en fous !» répondit Louise Michel. « Si on me tue, je crois que, dans le monde des vers, je ne souffrirai pas de toutes les injustices que je vois ici. » Quand elle déboucha sur l'esplanade, le visage rougi par le froid, c'est le Gaulois hein, qui fait valoir qu'il faisait très froid. Hein, il a neigé la nuit, il y avait du vent qui soufflait, la température ressentie devait être en dessous de zéro. Hein. Très calme, comme à son habitude, et habillée de ses vêtements noirs, la citoyenne fut acclamée. On se rua vers son groupe. Dans l'énorme attroupement qui se forma, un citoyen prit la parole. « Citoyen, si la police veut nous interdire aujourd'hui de nous réunir librement, ne soyons pas toujours comme des moutons. Sachons opposer la force à la force et affirmer hautement notre droit au travail. » Louise Michel applaudit, comme tout le monde, et n'eut pas le temps de répondre. En effet, 1000 agents, sortis du palais de l'industrie, arrivaient au pas de charge. Ils se précipitèrent sur la foule, bousculant tout, jusqu'à Louise Michel qu'ils poussèrent. Tout en résistant, la citoyenne recula. Elle finit par être jetée derrière la ligne des gardiens qui barrait l'avenue de la Motte-Piquet. 1500 anarchistes la suivirent. Nous les retrouverons tout à l'heure. On commençait à blaguer sur l'esplanade, les ouvriers, oubliant qu'ils étaient sans ouvrage, rigolaient. Tout d'un coup, comme si un mot d'ordre avait été donné, la foule cria « À l'Élysée ! À l'Élysée !» Alors, c'était le but de la manif du dimanche, hein, la manif des maçons, de partir de l'hôtel de ville jusqu'à l'Élysée. Très curieux, hein, c'est une marche à l'envers, hein, puisque traditionnellement en France, tous ceux qui ont renversé un pouvoir vont proclamer le nouveau pouvoir dans le palais du peuple, hein, la maison du peuple, hein, l'hôtel de ville. Ça a été fait. La Commune, hein, bien sûr, De Gaulle hein, l'a fait, 1848 l'a fait. Là, on part donc de cette maison du peuple pour aller à l'Élysée, donc ce qui représente, ce qui symbolise le pouvoir. Hein. Alors voilà, on y est, la marche sur l'Élysée. Et c'est le journaliste du Gaulois. Bientôt, on ne dit plus seulement à l'Élysée. On cria « En avant, en marche !» et on marcha. Toute la foule prit le pas de course, se dirigeant vers le pont des Invalides. Les gardiens de la paix voulurent barrer l'entrée du pont. On les gagna de vitesse. Quand la force publique arriva, 3000 manifestants étaient passés. Sur le pont, on bouscula tout. Des curieux furent piétinés. En voulant se garer, un homme passa par-dessus le parapet et tomba dans la Seine. Ça doit être le noyé, la seule victime, hein. Ça doit être le noyé donc de cette manif. Personne ne fit attention à cet accident. Au bout du pont, on tomba sur les Champs-Élysées, toujours au pas de course. La foule allait droit devant elle, renversant les chaises, piétinant les gazons. Elle se dirigeait vers l'avenue de Marigny, au champ de la Marseillaise. Alors je saute un petit peu. On avance, on traverse l'avenue. Monsieur Kamescas, préfet de police, est sur le trottoir devant l'Élysée. En hâte, il met en ligne 100 agents essoufflés et qui sont arrivés une demi-minute avant l'émeute. Une demi-minute, il s'en est fallu de cela que le palais où habite Monsieur Grévy ne fut envahi par les républicains, comme jadis l'a été le palais de Charles X par Monsieur Grévy. En voyant les agents, la foule s'arrêta. Que faire ? En avant ! Forçons ! criaient les enragés. « Avez-vous des armes ?» répond une voix. « En sacrifiant du monde, vous en aurez, » riposte un anonyme. « Vous aurez celle des agents. » On se regarde, on va peut-être se lancer. Mais M. Kameskas a profité de l'hésitation des émeutiers. Trois omnibus sont arrêtés. Il les fait avancer de front sur toute la chaussée. L'émeute recule devant les chevaux. Sur les trottoirs, les gardiens de la paix chargent. Ils frappent à tort et à travers, à coups de poing, à coups de pied, avec une grande brutalité. Un agent dégaine même. Ses camarades lui font remettre l'épée au fourreau. La police arrête aussi, et sans plus de discernement, qu'elle ne frappe. Alors, oui, et puis on va voir, il y a un petit entrefilet, l'arrestation de Monsieur Feuillant, notre ami et collaborateur qui sortait avec un ami de chez la fleuriste bien connue du Faubourg Saint-Honoré, dont le magasin fait face à la rue du Cirque, est appréhendé au moment où, répondant à une question de son compagnon, il disait « Ils vont à l'Élysée ». Sur ce mot, on lui met la main au collet et on le conduit chez le commissaire de police de la rue d'Astor qui lui fait subir un premier interrogatoire. Ouais. Donc, il y a tout un truc autour de ça. Alors, je reviens donc sur ce qui se passe. Après cette parenthèse, nous reprenons le cours de notre récit. Arrêtant et frappant, les agents, puissamment aidés par les omnibus, ont refoulé le monde dans la rue du Cirque et dans la rue Matignon. La retraite s'effectue en désordre. Chacun instinctivement comprend cette situation et chacun cherche à se caser sur le trottoir pour voir ce qui va se passer. Il ne se passe rien. Les portes des ministères de l'intérieur et celles de l'Élysée sont closes, les trottoirs sont noirs d'agents, les baïonnettes des soldats du poste brillent. La foule a contemplé cet ensemble de forces policières, elle finit par se lasser et s'en va par toutes les petites rues. Mais M. Grévy a peur d'un retour offensif. On dit qu'il jouait avec son canard favori, qui s'appelait Bébé, quand l'émeute est arrivée et qu'il a failli s'évanouir. On envoie chercher des dragons et des municipaux à cheval. L'Élysée peut se rassurer. Alors on revient à l'esplanade. Les barrages mis à toutes les rues qui conduisaient à l'esplanade, ayant empêché les manifestants venus de Grenelle et de Vaugirard d'arriver sur le terrain du meeting, les prolétaires de ces quartiers éloignés se sont vengés sur les maisons voisines de l'esplanade. 10 000 individus couvraient l'avenue de la tour Maubourg. Ils ont brisé des fenêtres chez monsieur le baron de Montsabré, chez monsieur de Beaufort. Quelques-uns des malfaiteurs ont été arrêtés. Là ne se sont pas bordés les violences. Des voitures de maître et des fiacres ont été endommagées. On en faisait descendre des voyageurs, qu'on écrasait de projectiles. Le cocher de monsieur de Gautot-Biron a été blessé par un de ces projectiles. Et alors, donc, autre acte, hein, Louise Michel. Eh oui, la bande de Louise Michel, expulsée de l'esplanade, se trouva dans l'avenue de la Motte-Piquet. « Tournons les Invalides et rentrons sur l'esplanade, » dit quelqu'un. Aussitôt, le mouvement tournant s'effectua. Mais après une longue marche, les manifestants se trouvèrent à l'endroit où les boulevards des Invalides débouchent sur l'esplanade en face d'une forte escouade de gardiens de la paix. Devant cette force, ils rebroussèrent chemin et finirent par arriver sur le quai. Une seconde tentative pour prétendre sur l'esplanade échoua. « À l'Élysée !» cria une voix. On se mit en marche. Mais devant le pont de la Concorde, des agents étaient postés, barrant le passage. Il y eut un moment d'hésitation dans la bande, alors un citoyen monta sur le banc. « Citoyens travailleurs, nous tenons à constater que la réunion d'aujourd'hui a eu lieu malgré toutes les brigades de gardiens de la paix réunies et les troupes en armes qui n'ont pas osé nous disperser. Courage donc, vive la révolution sociale !» Ces cris sont 1000 fois répétés par les assistants. Louise Michel monte à son tour sur le banc. « Citoyens, je vous remercie d'avoir répondu à notre appel. Vous faites plus pour vous aujourd'hui que ne pourraient faire tous nos potentats. Nous allons avec vous traverser tout Paris en demandant du travail et du pain. Vive la révolution sociale !» Quand l'enthousiasme excité par le discours de la citoyenne est apaisé, une voix s'élève. « Emparons-nous du quartier !»« Oui, en avant, vive la révolution !» répond la foule. Les 1500 manifestants se mettent en marche par les mêmes rues qu'ils avaient suivies pour venir sur le quai, mais en sens inverse, ils se rendent derrière les Invalides. Voilà. Et alors, sur cette affaire d'Élysée, Louise Michel n'est pas du tout d'accord. Et le lendemain, elle fera une déclaration qui sera reprise dans le journal Le Gaulois. Voilà ce qu'elle dit. « Dites bien que je ne suis pour rien, moi, dans les manifestations contre l'Élysée. Cela ne me regarde pas. Ce n'est pas moi qui l'ai conduite. On ne peut aller à l'Élysée que pour demander quelque chose. Or, je suis anarchiste, et les anarchistes ne reconnaissent pas le pouvoir du président de la République. Ils n'ont donc aucune supplique à lui présenter. Il est l'autorité que nous nions, que nous combattons, que nous renverserons, et que nous ne sollicitons pas. Voilà. Donc là, elle se dé... elle pas du tout d'accord. Et du reste, elle, pratiquement, elle va tourner le dos, hein, puisque la place Maubert, ça fait le, c'est pas ça. Et alors voilà, on arrive donc au pillage. C'est le sous-titre donc du journal Le Gaulois. Mais alors là, ce numéro-là, c'est la relation de ce qui s'est passé, et sûrement assez précise, hein, parce qu'ils avaient des journalistes sur le terrain. On peut pas dire que c'est neutre, hein, puisque bon, ils veulent absolument affaiblir la République par tous les moyens. C'est pas, disons, la version que donneront des journaux dits républicains. Hein. Les manifestants s'avancent en criant. Vive le peuple, vive la commune, vive la révolution. Évidemment, la commune, et oui, Jules Ferry est revenu, hein, c'est qu'il y en a qui s'en souviennent, hein, du Jules. Hein. Tout à coup, voici une boulangerie. Nous n'avons pas de pain, s'écrie un des jeunes révolutionnaires de Montmartre, garde d'honneur de Louise Michel. Compagnons, prenons-en. Oui, allons-y, prenons du pain, puisqu'on nous refuse du travail. C'est pas Louise Michel, hein, qui dit ça, c'est son compagnon. En moins d'une minute, une razzia complète fut opérée. En présence de ce vol, Louise Michel éleva la voix, non pour protester, mais pour empêcher qu'on allât plus loin. « Citoyens, si vous avez faim, prenez du pain, mais ne faites pas de mal aux boulangers. » Cette objurgation ne fut pas écoutée. D'autres boulangers qui voulurent s'opposer au pillage furent volés et battus. 7 ou 8 boulangeries furent pillées. Ainsi, sur le parcours de la bande, citons en 3, celle de M. Maréchal, 123 boulevard Saint-Germain, de M. Augereau, rue du Four Saint-Germain, et une autre, rue des Canettes. Mais les anarchistes ne se sont pas attaqués seulement aux boulangers. En approchant du Bon Marché, ils aperçurent une maison dont la façade leur sembla cacher des ennemis du peuple. Ils en brisèrent les vitres à coups de canne. Plus loin, une voiture de maître voulut couper la bande. On l'arrêta. Les traits du cheval furent coupés. L'attelage. Les glaces des portières brisées. Plus loin encore, un fiacre eut le même sort. Ce pauvre fiacre, il y avait dans l'intérieur un monsieur décoré qui, se voyant arrêté, mit la tête à la portière et cria au cocher « Marchez sur cette canaille !» Ce propos d'aristocrate fut puni par le démantèlement complet du sapin, donc du fiacre. On était devant l'ancienne maison des jésuites. Au cri de « Vive le peuple ! À bord les calotins !» on brisa quelques vitres. À côté de cette maison se trouve une boutique d'objets religieux. La devanture vola en éclats, et les cannes promenées dans l'étalage abattirent les têtes de quelques saint Joseph et de quelque enfant Jésus. Tous les magasins de piété qui sont situés dans ce bout de la rue de Sèvres furent victimes des mêmes bris et de la même dévastation. Toutes ces exécutions étaient faites au cri de « Vive le peuple !» Il faut dire à la louange des ouvriers que beaucoup, après le pillage des magasins, s'étaient retirés. Mais malgré les désertions, la troupe était encore forte de 1200 personnes. C'est alors qu'apparut l'écharpe rouge et le drapeau noir. D'où vinrent-ils ? Ah oui. Alors voilà, du travail et du pain. C'est un nouveau titre. Tout à coup, une Anglaise qui accompagnait Louise Michel se ceignit d'un morceau de drap rouge. En même temps, un inconnu offrit à Louise Michel un drapeau noir. Elle le prit et en l'agitant, elle cria « Du travail et du pain !» Ce fut un cri dorénavant, celui de la manifestation. Il retentit continuellement sur tout le parcours. Alors, le premier, à cristalliser donc sur ce drapeau noir et du travail ou du pain, bah on se rend compte que c'est le Gaulois. Et alors, c'est le journal Le Gaulois du lendemain, hein, pile poil du lendemain. Et alors, sur cette Anglaise là qui accompagnait Louise Michel, on peut se référer au journal Le Gaulois du jeudi 15 février 1883. Et en page 3, voilà ce que l'on lit. Nous lisons dans une lettre adressée de Londres le 11 février à l'Indépendance belge, journal, hein, l'Indépendance belge, une Louise Michel américaine, mademoiselle Suzanne B. Anthony, va quitter Philadelphie le 21 de ce mois pour venir en Angleterre et en France défendre les droits des femmes avec 3 autres orateurs féminins et une 4e dame, mademoiselle Rachel Poster, qui fera fonction de secrétaire. Mademoiselle Suzanne B. Anthony vient de faire un assez bel héritage. On ne peut lui en vouloir de songer à le dépenser. Ce qui serait plus grave, ce serait que l'Amérique nous envoyait Hartmann, Most et autres nihilistes qui ont juré, dit-on, d'empêcher, vous savez ce que cela signifie, le couronnement du tsar. Je ne sais trop si ces individus pourront compter cette fois sur l'hospitalité de l'Angleterre. Alors, est-ce que, disons, cette Anglaise-là, c'est Mademoiselle Suzanne B. Anthony, est-ce que c'est une des trois autres, hein, Mademoiselle Rachel Poster, hein, on peut toujours se poser la question, hein, est-ce que c'est Louise Michel qui, lors de ses conférences, les quelques-unes qu'elle a déjà faites en Angleterre, s'est fait donc des connaissances et qui viennent voir ce qui se passe en France, hein. Enfin, toujours est-il que, voilà, donc, pour le journal Le Gaulois, l'année, disons, le point de départ donc de ce drapeau rouge, hein, de cette écharpe rouge et de ce drapeau noir, hein, voilà. Alors voilà, ce fut un cri dorénavant, celui de la manifestation du travail et du pain. Il retentit continuellement sur tout le parcours. Au moment où on allait entrer dans la rue du Four Saint-Germain, une bousculade se produisit. L'Anglaise à l'écharpe rouge reçut d'un agent un coup de pied dans le ventre. Elle chancela. Il fallut la porter dans une pharmacie. Jusqu'à la place Maubert, la bande ne fut plus inquiétée, mais là, elle se trouva prise en tête et au flanc par deux escouades de policiers. Une bagarre bientôt dégénérée en bataille s'engagea autour de Louise Michel. Quelques agents dégainèrent. La citoyenne, serrée de près, se laissa prendre son drapeau noir. Pendant que les gardiens de la paix cognaient sur ses frères, Louise fut saisie par deux amis et entraînée dans la rue des Nonains d'hier. Là, on héla un fiacre. La grande citoyenne y fut jetée. « À la Bastille !» dirent les amis. « Nous vous rejoignons. » Une demi-heure plus tard, 400 hommes et jeunes gens retrouvaient Louise Michel devant la colonne de Juillet, place de la Bastille. À la vue de l'attroupement, un gardien de la paix courut pour prévenir son poste. Poursuivi, le malheureux reçut un coup de canne plombé sur la tête et il tomba. Et la bande continua à avancer en criant « Vive la sociale ! Du pain ! Du pain !» Le gardien de la paix, relevé par les passants, a été transporté dans une pharmacie, puis reconduit en voiture à son domicile. La bande, devançant les agents du poste de la gare de Vincennes, entra dans le faubourg du Temple, où elle jeta l'épouvante. Les ébénistes se barricadèrent, abandonnant des meubles à leur devanture. En criant toujours « Du travail et du pain !», les manifestants montèrent dans le faubourg jusqu'à la rue de Charonne, où ils s'engagèrent. Les habitants de ce quartier s'étaient joints en grand nombre à la bande, qui était à ce moment revenue à son chiffre de 1500 hommes. Louise Michel s'arrêta, et d'un ton triomphant, « Citoyens, nous avons traversé tout Paris sans être arrêtés. Nous avons prouvé que la rue nous appartiendrait, quand nous le voudrions. Nous pouvons maintenant nous séparer librement, puisque personne ne nous y contraint. À dimanche, donc, et vive le peuple qui a vaincu. » Aujourd'hui, donc dimanche, c'est cet rassemblement donc sur la place de l'Hôtel de Ville, organisé donc par les ouvriers maçons, et puis aller donc là à l'Élysée. Mais bon, ça va pas se passer comme ça, puisque Louise Michel va être obligée de tomber dans la clandestinité, parce que là, il y a tout le monde qui lui court après, plus particulièrement les policiers. Pendant ce temps, des agents de police cherchaient en vain Louise Michel et sa troupe dans la rue de la Roquette. L'anecdote finale. Les manifestants s'étant dispersés, une bande d'anarchistes descendit le boulevard Voltaire. Ses compagnons, altérés par les marches de la journée, allaient entrer chez un marchand de vin au numéro 178, quand ce commerçant, pris de peur, ferma sa porte à double tour. Très tranquillement, les anarchistes prirent le numéro de la maison et s'éloignèrent en disant « Nous nous reverrons dimanche !» Réactionnaire que tu es. Ils n'ont pas cassé la vitrine. Hein. Alors il y a l'incident Kératry. Eh oui, monsieur de Kératry, ancien préfet de police au gouvernement de la Défense nationale. Alors bah lui, il a eu des problèmes puisque il a eu des soucis, donc il a été maltraité par la police sur la place des Invalides. Alors évidemment, il écrit au procureur de la République, hein. Monsieur le procureur de la République, j'ai l'honneur de vous informer que passant aujourd'hui à 2h moins 5, sur l'esplanade des Invalides, j'ai été l'objet de violences de la part des agents de l'autorité, sans aucun prétexte, dans les circonstances suivantes, tatata. Puis alors, il explique, hein, j'ai connu assez les droits de l'autorité pour connaître aussi les services de ceux qui ont l'honneur de la détenir, tatata, tatata. Alors, il menace, hein, voilà, qui va en parler à tout le monde, donc je sais pas comment ça s'est terminé, cet incident, donc, de l'ancien préfet de police de Paris. Et alors, l'article donc du Gaulois sur cette manifestation, hein, donc de la place des Invalides, hein, ça se termine donc par le balayage. À 4h, la police, donc de 2h, de 14h à 16h en fait, hein, la police lasse de lutter a cédé le terrain aux gardes municipaux à cheval. Ceux-ci ont simultanément opéré autour de l'Élysée, sur l'Esplanade, sur le pont de la Concorde et sur le boulevard Saint-Germain. Comme pendant les journées fameuses de la fin de l'Empire, donc évidemment 2, 3, 4 septembre 1870, les chevaux ont galopé sur les trottoirs. La foule fuyait devant les chevaux avec des lazzi ou des injures à l'adresse des cavaliers. Autour de l'Élysée, où cependant on n'a vu personne après 6 heures, des patrouilles de 20 dragons, sobres au point, n'ont pas cessé de circuler pendant toute la nuit. Alors, ce qui s'est passé, par exemple, il y avait encore donc... les gardes républicains à chevaux, ou tout au moins la police à cheval, hein. Donc en 36, hein, 34, hein, les émeutes de 34, hein, ça c'était plutôt dégueulasse, parce qu'on mettait des lames de rasoir au bout des cannes, et quand le cheval passait, ben, on lui coupait donc le jarret, donc inutile de dire que le cheval il allait pas très loin. Et puis, bon, j'ai eu aussi donc des histoires familiales où il se disait que ben, quand on allait sur une manif, ben, il fallait mettre des billes dans sa poche, hein, alors pas des billes en terre, bien sûr, hein. Donc des billes d'acier, on balançait ça sous les, bah, sous les pattes des chevaux, le cheval se cassait la gueule, donc celui qui était dessus, bah, il tombait avec, hein. Alors évidemment, ça faisait peut-être pas du bien au cheval, mais enfin, c'était quand même moins cruel que du couper donc le jarret, parce que le cheval était abattu, hein. Là, voilà. Donc, les manifs, donc, avant 1930, avant 1936, hein, même 36, hein, il fallait avoir prévu, donc, des petites billes de roulement à billes, hein, des billes d'acier, et puis les balancer, les charges de cavalerie, elles allaient pas très très loin dans ces conditions. Voilà. C'est du transmis vécu. Alors voilà, ça se termine comme ça. La police, c'est Monsieur Kamescas qui a dirigé en personne la résistance à l'émeute. Le préfet de police avait établi son quartier général au ministère des Affaires étrangères. Monsieur Jules Ferry et Monsieur Valdec Rousseau sont restés en permanence au Quai d'Orsay. Alors, ça rappelle ce qui s'est passé donc le 18 mars 1871, hein, Ferry, Quai d'Orsay, c'est à peu près la même chose, hein. Ils étaient informés des incidents par Monsieur Kamescas, Schnerb, Cobet, qui n'ont pas cessé d'aller et de venir entre l'Esplanade, l'Élysée et le ministère des Affaires étrangères. Et alors, qu'est-ce qui se passe à la Chambre des députés pendant ce temps-là? Dans les couloirs du Palais Bourbon, un certain nombre de députés devisaient des incidents de la journée. La colère était parmi eux à l'ordre du jour. N'était-ce pas un déguisement de la peur? Les mauvaises consciences ne sont pas tranquilles. Or, depuis que les 300 députés qui avaient promis la révision à leurs électeurs, les 250 qui l'avaient voté il y a 13 mois, se sont reniés eux-mêmes en la repoussant pour l'amour du ministère. Ils ne sauraient avoir la conscience nette. On n'entendait parler que de mesures de rigueur et d'actes de violence, y compris donc dans la bouche des députés républicains, hein. « Foutez-moi à l'eau ces gens-là » disaient peu parlementairement un certain nombre de députés qui, craignant qu'on ne les y fiche eux-mêmes, à l'eau. D'autres caressaient à voix basse le rêve d'une bonne petite loi sur la presse. Et oui, parce que contrôle de la presse, c'est certain que, bah, par exemple, le Gaulois ne pourrait pas, disons, republier bah, les affiches ou les textes des journaux révolutionnaires, hein, bien sûr. Hein. N'est-ce pas toujours à la presse qu'on fait payer les pots cassés ou fêlés, ou même simplement menacés? Et alors, les affiches. L'affiche rouge dont nous avons donné hier le texte n'est pas la seule qu'on ait placardée sur les murs de Paris. Boulevard d'Enfer Rochereau, sur les murs d'un chantier de bois qui confine au commissariat de police, une main inconnue avait piqué avec une épingle une feuille manuscrite sur laquelle on lisait. On connaît les affamés, mais on connaît aussi les vertueux qui, pendant que le peuple se battait, dînaient copieusement chez Brébant, qui possède une médaille de reconnaissance avec l'inscription. Alors c'est cette fameuse médaille, hein. Voilà. Alors ça évidemment c'est pendant le premier siège, hein. C'est quand les Prussiens faisaient le siège et qu'on mourait de faim dans Paris, hein. 1870, hein, hiver 70, très froid l'hiver, hein, parce que la Seine était gelée, hein, ou tout au moins charriait des glaçons. Donc ça veut dire moins 30, moins 40, hein. C'est énorme à Paris. Pendant le siège de Paris, quelques personnes ayant coutume de se réunir chez Monsieur Brébant tous les 15 jours ne se sont pas une seule fois aperçus qu'elle dînait dans une ville de 2 millions d'âmes assiégée. Et c'est daté 1870-1871. Voilà. Alors, cette médaille, elle est connue, hein, historiquement, elle est très connue. Et alors, on la retourne. Au revers, voilà ce que l'on lit. À Monsieur Paul Bréban. Alors, qui a offert cette médaille à Monsieur Paul Bréban? Ernest Renan, Charles Edmond, Paul de Saint-Victor, Thurot, Berthelot, Bertrand, Charles Blanc, Marais, Scherrer, Edmond de Goncourt, Duménil, Théophile Gautier, Nevers et Brard. Voilà. Donc, pendant qu'il y en a qui mouraient de faim, il y en a qui s'empiffraient tranquillement chez Bréban. Bréban existe toujours, hein, la façade, hein, tout au moins. Voilà. Et alors, voilà ce comment termine donc le journaliste, hein, qui rappelle donc cette affiche, hein, mais surtout cette médaille. Hein. Voilà une jolie liste d'otages. Remarquons en passant qu'elle est composée en majorité de républicains, dont 3 sénateurs. Et oui, ça c'est le coup de patte. La soirée. Le Gaulois continue. La soirée. La soirée ne s'est pas ressentie des émotions de la journée. Il faut dire que la fièvre qui régnait de l'esplanade des Invalides au faubourg Saint-Honoré n'avait pas atteint les quartiers du centre, et en particulier les boulevards. Enfin, les boulevards, donc, rive droite. Hein. De la Madeleine à la Bastille, la grande voie avait conservé sa physionomie habituelle, moins animée peut-être et moins bruyante à cause du froid. Et oui, il y a que le Gaulois, hein, qui fait ressortir qu'il faisait très très froid ce jour-là. Toutes les parlottes avaient lieu à l'intérieur des cafés, qui ont fait des affaires superbes au préjudice des théâtres, qui eux, par exemple, ont éprouvé assez rudement le contre-coup de la manifestation. Presque partout, baisse sensible sur les recettes. Pendant les entr'actes, les spectateurs causent avec animation et regagnent tardivement leur place. Les caissiers de théâtre, très décontenancés, adressent des vœux au ciel pour que l'on ne renouvelle pas cette lugubre plaisanterie. Hélas, ça recommence. À Belleville, à Charonne, au Quartier Latin, même calme, si et non, même indifférence. Un peu plus d'animation et de controverse dans les cabarets, voilà tout. Et donc le journaliste conclut, Parisien, dormez. Dernière heure. La citoyenne Louise Michel, dont nos confrères du soir annonçaient l'arrestation, s'est couchée chez elle à 9h. Alors, Louise Michel, il faut rappeler que le 5 janvier, Louise Michel est en prison. Le 5 janvier, c'est les obsèques de Marianne Michel, donc sa mère. Et elle est emprisonnée puisqu'elle a pris 6 ans de prison, hein, suite à cette manifestation. Et au cimetière de Levallois, le citoyen Dijon prend alors la parole. Et voilà ce qu'il dit. « Au nom des groupes anarchistes, nous venons glorifier l'héroïne de la manifestation des Invalides. Devant cette tombe, réalisant l'alliance de tous les révolutionnaires, je le veux bien, mais sur le terrain de la liberté absolue, et sans arrière-pensée. » Alors, c'est repris donc dans mes, c'est Dijon, hein, Dijon, donc celui qui a participé à la commune de Narbonne, hein, et qui, disons, jusqu'en septembre 1882, avant qu'il y ait donc un éclatement entre autoritaires, anti-autoritaires et puis anarchistes, donc a fait cette tournée donc dans le sud de la France avec Louise Michel, hein. Donc on voit que Dijon, eh bien, donc à l'enterrement de la mère de Louise Michel, il parle de Louise Michel, et Louise Michel, c'est elle-même qui le reprend donc dans ses mémoires de ma vie, donc qui sont parues en 1886, hein, puisque on va pas dire que heureusement que Louise Michel a ramassé donc des années de prison, mais toujours est-il que pratiquement à chaque fois que Louise Michel est emprisonnée sort donc un texte. Alors là, évidemment, elle va être emprisonnée très longuement, donc elle va avoir le temps d'écrire Mémoires de ma vie, qui paraissent donc en 1886. Elle aura mis donc à profit ses années d'emprisonnement pour écrire cela. Et alors donc, évidemment, son histoire de la commune, qui va paraître chez Stock en 1898, ça sera à peu près la même chose, puisque elle passera énormément de temps donc en Angleterre, hein, puisque elle est pas très bien vue en France, hein, donc elle passe beaucoup de temps en Angleterre, et elle mettra donc à profit le temps de calme qu'elle passe en Angleterre, donc pour écrire cet ouvrage, La Commune, hein, qu'elle fera publier donc chez Stock, mais là en 1898, hein, et là donc Mémoire de ma vie, elle reprend donc, et c'est ce qui lui vaudra donc ce temps de réflexion, hein, obligatoire en prison, pour écrire donc ses mémoires, hein, voilà. Et alors, voilà, ça se termine comme ça, hein, le journal Le Gaulois. Il n'est pas question de faire de nouvelles arrestations. Monsieur Kameskas trouve que c'en est assez d'avoir mis la main sur 22 manifestants, dont voici les noms. Alors, il y a une liste. Hein. On se rend compte que c'est souvent des jeunes. Évidemment, ce sont des ouvriers. Il y a un employé, mais il y a des maçons, couvreurs, fumistes, étudiants. Passementier, et puis il y a un certain Charles Wilson, correspondant de journaux étrangers, voilà. Et alors, quant aux chevaux de la garde républicaine rentrés à 8 heures, ils sont demeurés 10 heures hors de l'écurie. Les brigades centrales et les municipaux sont remplacés par la ligne et par les dragons. Avant qu'on fît évacuer l'esplanade, le citoyen Le Tailleur s'adresse une pétition aux chambres, dont le texte envoyé au journal La Bataille n'a pas été communiqué aux autres journaux. Le bruit court parmi les révolutionnaires que le meeting des maçons n'aura pas lieu place de l'Hôtel de Ville, mais place de la Concorde, dimanche à midi. Le rendez-vous aura été changé pour que les maçons puissent se rendre à l'Élysée. Et c'est signé donc Louis Lambert. Et alors, le soir même là de cette manifestation, hein, où vraiment il faisait très froid, où on s'est battu pendant plus de 2 heures dans Paris, le soir même, le Cercle National organisait un banquet de 150 couverts en l'honneur de Jules Ferry. Et ça, c'était rue Lepelletier. Et oui, Jules Ferry venait d'être nommé président du Conseil. Voilà. Eh bien, je ne vois pas poindre donc Jehan. Donc, je vais peut-être continuer parce que j'ai pris beaucoup de retard autour de Louise Michel. Donc, je vais peut-être continuer. Je vais mettre un petit peu de musique et on va mettre la canaille. Ouais, la canaille. Tiens, on va mettre la canaille en attendant. Et puis, je continuerai donc un petit peu encore avec cette lecture du journal Le Gaulois, hein, qui, il y a énormément, donc, pratiquement, il ne se passe pas une semaine, là, jusqu'à, donc, cette manifestation. Il ne se passe pas une semaine où il n'y ait pas un ou deux articles dans le journal Le Gaulois, donc, qui évoquent Louise Michel. Eh bien, on essaye.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu brûlant.